Vous écoutez, on lit pour vous.
Montréal abolit ses collectes locales de déchets dangereux. Un texte d'Ariane Kroll, paru le 27 avril 2026 dans La Presse. Une vieille imprimante, un lecteur VHS, des contenants aérosols. Daniel Leblanc, qui habite Tétroville et n'a pas d'auto, comptait apporter ses objets électroniques et RDD à pied dans son petit chariot à roulettes à la prochaine collecte itinérante de son arrondissement. Or, ce service a été aboli, l'a informé l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. « Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis bien découragé », témoigne Mme Leblanc, pour qui il n'est pas question de mettre ses déchets aux poubelles. Les collectes itinérantes de RDD acceptaient souvent d'autres rebuts, produits électroniques, climatiseurs résidentiels, pneus, etc. Elles ont vu le jour en 1989, au moment où les écocentres et les points de dépôt au cœur des quartiers n'existaient pas, et leur coût est très élevé, a justifié une porte-parole de la ville, Camille Bégin, par courriel. Aujourd'hui, Montréal compte 7 écocentres et plus de 450 points de dépôt au cœur des quartiers. Sauf que ces points de dépôt, comme les pharmacies qui acceptent les piles, prennent un nombre trop restreint de matières, de sorte qu'il faut en visiter plusieurs, objecte Mme Leblanc. Aller là en transport en commun, c'est assez complexe en partant de l'Est. Ma journée va y passer. La collecte de cet arrondissement était également populaire dans l'édifice de 75 condos où habite Mireille Bénard. On en faisait la promotion sur le groupe Facebook de l'immeuble. Plusieurs copropriétaires allaient porter leurs contenants et autres objets. Les gens vont devoir se déplacer ou ne le feront pas dans les écocentres. La majorité de ce qui était ramassé par les collectes mobiles se retrouvera dans les poubelles ou terrains vagues, prévoit un autre résident du quartier, Sylvain Caron. Bien que les citoyens ont accès à des points de dépôt de récupération ou de réemploi de produits électroniques, un nombre encore trop important de produits électroniques en fin de vie utile se retrouve en bordure de rue lors des collectes de matières résiduelles, a d'ailleurs reconnu l'arrondissement dans une résolution en 2022. Devant un fait accompli. Jusqu'en 2025, Montréal offrait des collectes dans 7 arrondissements et 9 villes liées. Des maires de banlieue se plaignent d'avoir été mis devant un fait accompli. À Beaconsfield, les deux collectes annuelles ont recueilli près de 27 tonnes de matière en 2025. Des résidents plus âgés ont contacté la ville pour dire à quel point ce service était important pour eux, et qu'il serait illusoire de croire qu'ils étaient en mesure de se rendre facilement à un écocentre, comme le suggère Montréal, nous a écrit le maire Martin Saint-Jean. Une crainte bien réelle est que certains citoyens, faute de meilleures options, mettent aux ordures ce qui pourrait faire l'objet d'une collecte sélective, souligne le maire de Beaconsfield. Montréal a réalisé une analyse rigoureuse des coûts et de l'utilisation du service, qui a démontré un rapport coût-efficacité nettement défavorable, fait valoir Camille Bégin de la Ville-Centre. Le coût par tonne de RDD est près de 6 fois plus élevé avec une collecte itinérante qu'en écocentre, soit 2 332 $ contre 409 $. Ces coûts par tonne représentent la moyenne des coûts annuels de 2018 à 2025. Offrir des collectes itinérantes de RDD a coûté 510 522 $ au total l'an dernier. En 2026, la facture aurait grimpé de presque 8 % 549 116 $, estime la ville. Ces sommes ne tiennent pas compte des autres rebuts, objets électroniques, pneus, etc., acceptés dans les collectes locales. À contresens de Québec, on est conscient que Montréal a de grands défis, mais je ne sais pas si les élus comprennent l'impact environnemental que ça va avoir. C'est beaucoup plus grave que les 500 000 $ dans leur budget, a réagi la mairesse de Baie-d'Urfée, Heidi Ekvedt. Ce n'est pas vrai que monsieur ou madame tout le monde va se promener partout, peinture ici, batterie là, nœud ailleurs. Ils vont les laisser au bord de la rue, selon la mairesse de Baie-d'Urfée. La Ville de Québec, qui organise 8 écocentres mobiles par an dans des quartiers centraux et des villes de l'agglomération, n'envisage pas de les abolir. Au contraire. Elle pense plutôt en augmenter la fréquence, indique son plus récent plan de mise en œuvre en matière de gestion des matières résiduelles. La popularité de la formule et sa capacité à détourner d'importantes quantités de matières, dont des résidus domestiques dangereux, nous démontre sa totale pertinence, a souligné la ville par courriel. En savoir plus. 447. L'île de Montréal est la région qui compte le moins de véhicules par habitant, après le nord du Québec. On y trouve 447 véhicules de promenade léger par tranche de 1000 habitants, contre 705 en moyenne dans l'ensemble du Québec. Source, Institut de la statistique du Québec. C'était « Montréal abolit ses collectes locales de déchets dangereux », un texte d'Ariane Kroll, paru le 27 avril 2026 dans la presse.
Des vélos sans donner. Un texte de Mathieu Murphy-Perron paru le 2 avril 2026 dans la presse. Mathieu Murphy-Perron est cycliste 4 saisons et militant pour la mobilité douce avec Vélorution Montréal ainsi que le collectif Souliers et Vélo Fantôme Québec. À Montréal, il suffit de se placer quelques minutes au coin d'une rue pour comprendre que le vélo n'est plus marginal. Il est partout. Le matin, le soir, en plein hiver, sous la pluie, avec des enfants à l'arrière ou des sacs d'épicerie accrochés au guidon. Et pourtant, depuis le 18 mars 2026, cette réalité-là n'a plus de traduction publique dans les données. La suspension de la diffusion des données de comptage vélo par éco-compteur, faute de financement par la nouvelle administration municipale de Soraya Martinez-Ferrada, pourrait passer pour un détail technique. Elle enlève en fait un des rares outils qui permettait de sortir la discussion du terrain des impressions. Parce que ces compteurs faisaient quelque chose de simple et de précieux. Ils rendaient visible, noir sur blanc, l'évolution des usages. Pas à travers des sondages, pas à travers des déclarations, mais à partir de passages réels, comptés, cumulés, comparés. Ils permettaient de répondre à une question qui revient sans cesse, dès qu'on parle de vélo. Est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que les gens les utilisent, ces aménagements? À quel point? Sans ces chiffres, la réponse devient immédiatement plus floue. On retombe dans des discussions où chacun peut s'appuyer sur ce qu'il croit voir ou ne pas voir selon son propre trajet, son quartier, ses habitudes. Et dans ce flou, certaines positions deviennent beaucoup plus faciles à tenir. L'affaiblissement tranquille. Officiellement, il s'agit d'un enjeu de financement. Officieusement, difficile de ne pas remarquer une accumulation de décisions qui, mises bout à bout, affaiblissent tranquillement ce qui permet de comprendre, de suivre et de défendre la mobilité active. On ralentit ici, on revoit là, on suspend ailleurs. Rien de spectaculaire, rien qui fasse les manchettes à lui seul, mais une série de gestes modestes qui ont un effet cumulatif. Rendre plus difficile la démonstration que ces transformations fonctionnent. Dans ce contexte, perdre l'accès à des données aussi élémentaires que des comptages de passage n'est pas anodin. On accepte difficilement de piloter n'importe quelle autre infrastructure sans données. On mesure les flux, on suit les volumes, on ajuste en conséquence. On ne dirait pas pour un réseau routier que documenter l'usage est optionnel selon les budgets de l'année. Pour le vélo, manifestement, ça reste négociable. Comme si cette part de la mobilité devait encore en permanence prouver qu'elle mérite d'être prise au sérieux. Il ne s'agit pas ici d'un grand complot ni d'une décision spectaculaire, juste d'un relâchement, d'un manque d'attention, d'un choix de ne pas prioriser un outil pourtant essentiel pour comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ces choix-là ont des conséquences, parce qu'ils changent subtilement le poids que certaines réalités occupent dans l'espace public. Ce qui n'est plus mesuré devient plus facile à minimiser. Ce qui n'est plus publié devient plus facile à ignorer. Et ce qui est plus facile à ignorer devient, à terme, plus facile à remettre en question. Les personnes à vélo vont continuer de circuler. Elles n'ont pas besoin de capteurs pour exister. Mais sans ces données, elles perdent une partie de leur poids dans les décisions qui façonnent la ville. Et à force de multiplier les petits gestes qui vont tous dans la même direction, on finit par transformer ce qui devrait être une évidence observable en quelque chose qu'il faudrait, encore une fois, défendre. C'était « Des vélos sans données », un texte de Mathieu Murphy-Perron, paru le 2 avril 2026 dans la presse.
Ralentissement d'un courant océanique, de plus en plus visible. Un texte de Agence Science Presse, paru le 10 avril 2026 dans Science Presse. Des observations accumulées sur plusieurs décennies permettent de mieux comprendre l'évolution d'un courant océanique majeur de l'Atlantique. Ce courant, appelé AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation, fait partie d'un vaste système de circulation thermohaline qui contribue à réguler le climat à l'échelle planétaire. Une partie de ce système transporte des eaux chaudes vers le nord, notamment jusqu'aux côtes européennes, tandis qu'une autre ramène des eaux froides et plus salées vers le sud. Un ralentissement de cette circulation pourrait avoir des conséquences importantes sur les équilibres climatiques. Un phénomène observé depuis plusieurs années. Depuis le début des années 2000, des scientifiques soupçonnent un affaiblissement de ce courant. L'une des causes possibles serait l'apport d'eau douce provenant de la fonte des glaces du Groenland. Cette eau dilue les eaux salées et denses, ce qui pourrait perturber le mécanisme de circulation et réduire la force du courant. Des données sur deux décennies. Une analyse récente basée sur des données recueillies entre 2004 et 2023 indique un ralentissement d'environ 10 %. Ces données proviennent de bouées équipées de capteurs mesurant notamment la température, la pression, les vents et les conditions maritimes. Initialement, ces instruments avaient été déployés sur un axe S-Ouest dans l'Atlantique, entre les Bahamas et les îles Canaries. Afin de confirmer les observations, les chercheurs ont élargi leur analyse à d'autres zones, notamment au large des Antilles, de la côte Est des États-Unis et de la Nouvelle-Écosse. La cohérence des résultats obtenus à différentes latitudes renforce la validité de l'hypothèse d'un ralentissement. Une meilleure compréhension des dynamiques océaniques. Cette convergence de données constitue une avancée importante dans l'étude des courants océaniques. Elle permet de mieux comprendre les mécanismes complexes qui régissent la circulation des eaux à grande échelle. Les chercheurs soulignent toutefois que ces observations doivent encore être approfondies afin d'évaluer précisément les impacts futurs sur le climat. C'était « Ralentissement d'un courant océanique, de plus en plus visible », un texte de l'agence Science Presse, paru le 10 avril 2026 dans Science Presse.
L'enfance réelle, l'enfance virtuelle. Un texte de Patrick Lagacé, paru le 28 mars 2026 dans la presse. Dans « Génération anxieuse » de Jonathan Haidt, on lit que depuis l'aube de l'humanité, les enfants socialisent en jouant dans le réel. Avec d'autres enfants, sans trop de supervision. C'est important pour tous les mammifères, ce que nous sommes. Au début des années 1990, les adultes ont commencé à organiser l'enfance de leurs rejetons en les confinant de plus en plus à la maison et dans des activités supervisées, du sport aux cours de violon en passant par les cours de mandarin. Résultat, de moins en moins de jeux libres, essentiels pour apprendre à socialiser avec d'autres humains. Puis, dans la deuxième moitié des années 2000, le téléphone intelligent a commencé à dominer nos vies et celles de nos enfants. Au début des années 2010, les enfants, au sens large, incluant les ados, ont commencé à plonger dans les réseaux sociaux. Leur enfance est devenue de plus en plus virtuelle. Et 15 ans plus tard, les chercheurs décortiquent les données et découvrent avec effroi que cette vie de plus en plus virtuelle a eu des effets épouvantables sur eux. Les troubles de santé mentale et l'anxiété en particulier se sont mis à monter en flèche, en particulier chez les adolescentes. Jonathan Haidt l'explique dans son livre publié en mars 2024. Dès qu'ils ont commencé à emporter leur téléphone intelligent à l'école et à surfer régulièrement sur les réseaux sociaux, y compris entre les classes, les adolescents semblent avoir développé des difficultés relationnelles. Être face à l'autre, en 3D, c'est se frotter à la réalité complexe de l'interaction humaine. Faire attention à ses mots, à ses gestes, en fonction de la réaction de l'autre. Négocier, coopérer, se réguler. Tout ça est particulièrement important dans l'enfance, quand les cerveaux se développent. Si vous remplacez l'essentiel des heures auparavant passées avec d'autres petits humains par du temps passé devant les écrans, vous bousillez l'aptitude à la socialisation. Une enfance et une adolescence en ligne, c'est aussi une jeunesse passée constamment sous le regard d'autrui, ce qui pousse à une performance de tous les instants. Haidt, encore. L'apprentissage social suppose l'art de l'amitié, qui est incarné. Être ami, c'est faire des choses ensemble. Enfant, on se touche, on s'étreint et on se bagarre. Les faux pas sont sans gravité et peuvent être rectifiés en temps réel. Cette rectification s'accompagne de signaux corporels clairs, telle qu'une excuse verbale assortie d'une expression de contrition. En revanche, constate-t-il, les relations sociales virtuelles créent des périls jusqu'ici inédits dans l'enfance humaine. En ligne, celles-ci se désincarnent, deviennent asynchrones et perdent parfois toute substance. Même de petites maladresses risquent de coûter cher dans un monde où les contenus numériques peuvent devenir viraux, subsister à jamais et être visibles par tous. Bref. Au lieu de gagner en maîtrise sociale, un enfant qui grandit dans le virtuel en viendra à redouter de futures interactions dans le réel. Je sais que j'ai l'air d'un vieux croulant qui commence à dire que c'était mieux dans le temps, avec cette chronique que vous lisez. Je me suis toujours méfiée de cette posture. C'est presque toujours faux. Les choses n'allaient pas forcément mieux dans le bon vieux temps, dans à peu près tous les plans de la vie humaine. Mais les données montrent la fragilité des enfants de la génération téléphone. Et ces données ont commencé à être inquiétantes à partir du moment où les mineurs ont commencé à plonger dans les écrans. Et les répercussions sont terriblement délétères pour les enfants et pour la société. Pour les enfants, la génération Z, 1996-2010, a été le premier cobaye d'une enfance désormais basée sur le numérique. Cette génération a été particulièrement affligée par des problèmes de santé mentale, comme la dépression et l'anxiété, qui ne sévissaient pas avec la même acuité chez les milléniaux Y, 1981-1996. Pour la société, il faut prendre soin de jeunes plus fragiles, moins résistants à la contrariété et aux difficultés de la vie qui, comme chacun le sait, ne se déroulent pas que dans le virtuel. L'enfance téléphone, qui a émergé des années 2010, a créé une génération plus craintive, qui voit des dangers partout, même là où il n'y en a pas forcément. Et elle combat ce réel effrayant avec des mots boucliers, toxiques, problématiques, traumatisants. Je cite Jonathan Haidt une dernière fois. L'exubérance des milléniaux en mode découverte céda la place, sur les campus universitaires, à une génération Z plus anxieuse, en mode défensif. Des livres, des déclarations, des conférenciers et des idées peu, voire aucunement controversées en 2010 furent qualifiés de nuisibles, dangereux, voire traumatisants dès 2015. Je termine sur une note d'espoir. Mars 2026 a été terriblement mauvais pour les géants de la techno qui dominent l'économie de l'attention. Dans deux causes distinctes, au Nouveau-Mexique et en Californie, les Meta, Facebook, Instagram et Alphabet, YouTube, de ce monde ont été condamnés par des jurys civils pour avoir conçu des produits dangereux pour les adolescents. On a appris dans ces procès que non seulement les géants de la tech savent que leurs plateformes sont nocives pour les jeunes, mais aussi que ça fait partie du modèle d'affaires. Ces deux décisions judiciaires vont inspirer d'autres poursuites pour négligence contre Big Tech de la part d'individus lésés, de leurs parents et d'État. Et peut-être que ce sera le début de la fin de l'enfance basée sur une relation de dépendance aux écrans. On peut toujours rêver. C'était L'enfance réelle, l'enfance virtuelle. Un texte de Patrick Lagacé, paru le 28 mars 2026 dans la presse.
Au Bangladesh, la difficile protection des tigres du Bengale. Un texte de Sheikh Sabiha Alam, de l'agence France Presse, paru le 28 avril 2026 dans Le Devoir. Pendant des siècles, il a été le roi des Sundarbans. Féroce, redouté et célébré. Mais le règne du tigre sur cette immense mangrove du sud du Bangladesh s'achève peut-être sous les coups conjugués des humains et du changement climatique. Abdul Ghani Ghazi est l'un des premiers à avoir tiré le signal d'alarme. À 45 ans, cet homme, surnommé Ghani Tiger, a dédié sa vie à la coexistence des félins et de la population. Souvent au péril de sa vie, nuance-t-il. Malgré la peur, cet infatigable militant revendique aujourd'hui avoir sauvé 36 tigres du Bengale des fusils ou des pièges humains et 106 résidents des griffes de l'animal. Mais à rebours des succès obtenus avec leurs cousins du Népal, leur population y a triplé depuis 2010, les efforts de préservation peinent à se concrétiser dans le delta du Gange. Leur nombre atteint aujourd'hui 125, compte Abdul Ghani Ghazi. Si nous voulons que les Sundarbans survivent, et avec eux les milliers de gens qui en dépendent, nous avons besoin des tigres du Bengale. Lors d'un sommet en 2010 à Saint-Pétersbourg, le Bangladesh s'était engagé à tout faire pour doubler la population de ces fauves, à l'époque estimée selon une méthode empirique à 414 individus. 5 ans plus tard, un recensement photographique nettement plus précis a ramené leur nombre à 106, puis à 114 en 2018 et 125 en 2024. Braconnage. Une progression de 2 tigres par an en moyenne, jugée insuffisante au regard des millions de dollars engagés par Dhaka. Le dernier plan 2022-2025 de protection a coûté au gouvernement 4,2 millions de dollars sur 3 ans. Conservateur en chef des forêts, Amir Hossein Chaudhuri attribue d'abord ses difficultés à la patte humaine. Selon lui, la montée des eaux de la mer et la salinité croissante des sols qui en résultent ont détérioré les terres agricoles et poussé les habitants à empiéter sur le territoire des tigres. Sans conflit majeur depuis 2018, assure un garde forestier, Azim Hassanout Rahman, mais l'empreinte humaine s'est élargie et a dégradé les conditions de vie de nombreuses espèces, dont les tigres, résume M. Chaudhuri. La chasse et le braconnage constituent l'autre menace qui pèse sur les félins. La Constitution du Bangladesh garantit depuis 1972 la protection de la biodiversité. Et depuis 2012, une loi punit ceux qui tuent un éléphant ou un tigre de 7 ans d'emprisonnement et d'une lourde amende. Dissuasif? Apparemment pas. En janvier encore, un tigre du Bengale a été retrouvé pris dans un piège. Les braconniers continuent à hanter les forêts en quête de peau, de dents ou d'os de tigre, prisés des tenants de la médecine traditionnelle chinoise ou des collectionneurs du monde entier. Selon l'expert Nazir Houdin, plusieurs groupes criminels se partagent ce juteux marché. Écosystème menacé. Parfois, ils tuent des tigres sur un ordre venu du Bangladesh ou d'ailleurs. Parfois, ils le font aussi pour se protéger des tigres qui pourraient les attaquer, détaille-t-il. La chasse d'autres proies menace également les félins, comme celle des cerfs, qui constituent 80% de leur régime. Une étude a estimé en 2013 à 11 000 le nombre de cerfs abattus chaque année dans la région. Si un tigre est tué dans les Sundarbans, tout l'équilibre de l'écosystème est menacé. Et si un cerf est tué, c'est toute la chaîne alimentaire qui est perturbée, résume le professeur Aziz. Ça peut pousser le tigre à s'approcher des villages et à les attaquer. Et le dérèglement climatique n'arrange rien. En plus d'accélérer la montée des eaux et d'augmenter le nombre d'épisodes météorologiques violents, il redessine ou élargit les lits des cours d'eau, perturbant les zones de chasse des félins. On leur a creusé des mares pour qu'ils puissent boire, mais on a vu des braconniers y déposer de la nourriture empoisonnée, souligne le conservateur Chowdhury. Le nombre de tigres répertoriés dans le monde est passé de 3200 en 2010 à plus de 5500 en 2023, selon le Fonds mondial pour la nature, WWF. Alors, en dépit de ces difficultés, le docteur Abhishek Ariar de l'ONG Pantera reste optimiste. Les efforts de préservation ont empêché la chute du nombre de tigres et permettront peut-être la survie de l'espèce à long terme. C'était, au Bangladesh, la difficile protection des tigres du Bengale, un texte de Sheikh Sabia Adam de l'agence France Presse, paru le 28 avril 2026 dans Le Devoir.